Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à toutes et à tous. Le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du lundi 4 septembre 2023. En direct de Washington, Idrissa Sedoudia pour commencer les titres. Au Gabon, le général Brice Oligui Nguema, nouvel homme fort du pays, prête serment ce lundi en tant que président de la transition. Au Niger, des milliers de personnes ont manifesté hier pour le troisième jour consécutif réclamant le départ des soldats français. En Côte d'Ivoire, le parti au pouvoir se dirige vers une large victoire aux élections locales. Coup d'envoi aujourd'hui au Kenya du sommet africain pour le climat. Rendez-vous clé pour le continent et la COP28. Le président turc Recep Tayyip Erdogan en Russie aujourd'hui pour tenter de convaincre son homologue Vladimir Poutine d'une reprise de l'accord sur les céréales ukrainiennes via la mer Noire. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal. Au Gabon, le général Brice Oligui Nguema, qui a renversé le président Ali Bongo, doit prêter serment ce lundi en tant que président de la transition. Nathalie Barge.
Le général Brice Oligui Nguema a promis des institutions plus démocratiques et respectueuses des droits humains, mais sans précipitation. Après de nombreuses rencontres ces derniers jours avec des partis politiques, le corps diplomatique, des organisations internationales et des bailleurs de fonds, Monsieur Oligui Nguema a également ciblé la corruption de l'ancien pouvoir d'Ali Bongo, dont la famille dirigeait depuis plus de 55 ans ce pays d'Afrique centrale riche en pétrole. Les militaires qui ont renversé le président Ali Bongo mercredi dernier ont par ailleurs annoncé la réouverture des frontières samedi avec effet immédiat. Le colonel Ulrich Manfumbi, porte-parole du comité pour la transition et la restauration des institutions, a déclaré à la télévision d'État que les militaires sont soucieux de préserver le respect de l'état de droit, les bonnes relations avec leurs voisins et l'ensemble des états du monde, et qu'ils veulent favoriser la continuité de l'état tout en démontrant leur ferme volonté de tenir leurs engagements internationaux, selon ses propres termes. Les autorités n'ont en revanche pas levé le couvre-feu qui demeure en vigueur sur l'ensemble du territoire de 18h à 6h. Les voyageurs arrivant au Gabon ou désireux de partir seront toutefois autorisés à circuler sur présentation de leurs documents de voyage, a précisé M. Manfumbi.
Au Niger, des milliers de manifestants se sont rassemblés hier pour le troisième jour consécutif près d'une base militaire abritant des soldats français à Niamey pour réclamer leur départ. Une demande du régime militaire au pouvoir, Rosine Mounezero.
Depuis vendredi, des dizaines de milliers de personnes se sont succédées au niveau du rond-point escadrille près de la base nigérienne où se trouvent des soldats français. Certains ont fait un sit-in dans la nuit de samedi à dimanche. Environ 1500 soldats français sont stationnés au Niger pour participer à la lutte anti-djihadiste dans le cadre d'accords militaires bilatéraux. Le 3 août, les généraux ont dénoncé plusieurs de ces accords. Le Niger a par ailleurs retiré l'immunité et le visa diplomatique de l'ambassadeur de France, Sylvain Ité, et exigé son expulsion selon un arrêté du ministère de l'Intérieur et une ordonnance du tribunal de grande instance de Niamey. La France a de nouveau justifié dimanche le maintien de son ambassadeur au Niger. Il est notre représentant auprès des autorités légitimes du Niger. Nous n'avons pas à nous ranger aux injonctions d'un ministre qui n'a aucune légitimité, affirme la ministre française des Affaires étrangères Catherine Colonna dans un entretien au journal Le Monde, assurant que Paris s'assurait qu'il puisse faire face en toute sécurité aux pressions des putschistes.
Au Mali, les forces de sécurité maliennes ont déjoué dimanche une attaque terroriste dans une zone proche de Bamako. Un policier et deux civils ont été blessés dans cette attaque, a rapporté l'armée Lionel Gahima.
L'armée malienne a indiqué sur Facebook que l'attaque a visé dimanche à 1h40 locale le poste de Diala Koroba dans la région de Koulikoro à une cinquantaine de kilomètres à l'est de Bamako. Elle a dit que les policiers en faction ont riposté férocement et vigoureusement puis mis en échec les terroristes selon ses propres termes. Le bilan de l'assaut est de 3 blessés, un policier et 2 civils. Un terroriste a été neutralisé après avoir été abandonné par les assaillants dans leur fuite, précise l'armée. Le Mali est en proie depuis 2012 à une grave crise partie du nord et qui s'est étendue au centre du pays, ainsi qu'au Burkina Faso et au Niger voisin. Après avoir renversé le président Ibrahim Boubacar Keïta le 18 août 2020, la junte malienne a exigé le retrait de la force française Barkhane, retrait qui a été effectué l'an dernier. Les militaires maliens ont également demandé le retrait de la MINUSMA, la mission de maintien de la paix des Nations Unies au Mali, d'ici la fin de l'année. La junte, qui affirme vouloir défendre la souveraineté du pays, a ainsi rompu l'alliance avec ses partenaires dans la lutte contre le djihadisme pour se tourner militairement et politiquement vers la Russie.
En Côte d'Ivoire, le parti au pouvoir se dirigeait hier soir vers une large victoire aux élections locales qui sont tenues la veille dans le calme, selon les résultats annoncés au compte-gouttes par la commission électorale indépendante. Les résultats de quelque 112 communes étaient connus hier soir sur les 201 qui étaient en jeu samedi. Le rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix en a raflé plus des deux tiers. Les deux principales formations d'opposition, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire et le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, pourtant alliés dans de nombreuses localités, n'avaient remporté qu'une quinzaine de communes, le reste revenant à des candidats indépendants. Au Burundi, des hommes armés ont tiré sur des civils près de Bujumbura, a indiqué hier l'armée. Le groupe rebelle Red Tabara a revendiqué cette attaque survenue samedi soir. Il dit avoir détruit une tour de communication aérienne dans la province de Bubanza. Des sources locales ont indiqué que deux personnes ont été tuées et une autre blessée, tandis que l'armée n'a pas évoqué de mort. Au Soudan, 5 civils ont été tués par les tirs croisés d'artillerie de l'armée et des paramilitaires hier à Khartoum, au lendemain de la mort de 20 personnes, dont 2 enfants, dans un raid aérien, selon une source médicale et des militants. 5 civils ont été tués quand des roquettes sont tombées sur leur maison à Omdurman, a rapporté un médecin. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a déclaré hier que son pays envisageait d'expulser un millier d'Érythréens ayant pris part aux émeutes qui ont fait des dizaines de blessés ce week-end à Tel Aviv, y compris parmi les policiers israéliens, cher Ruben Dorsil.
Les affrontements ont éclaté samedi lorsqu'une manifestation contre un événement organisé par le gouvernement érythréen a dégénéré, blessant près de 140 personnes, dont une dizaine de demandeurs d'asile érythréens touchés par des tirs de la police israélienne. Tout a commencé quand des centaines d'Érythréens hostiles au gouvernement ont tenté de s'opposer à la tenue de l'événement à Tel Aviv. La police, disant la manifestation illégale, a ordonné l'évacuation de la rue. Mais les manifestants se sont heurtés aux policiers qui ont fait usage de tirs à balles réelles contre les émeutiers, a déclaré la police, ajoutant qu'au moins 49 policiers ont été blessés. Des heurts entre partisans et opposants au régime érythréen ont également eu lieu dans un autre quartier de Tel Aviv. Dimanche, M. Netanyahou a déclaré que ces événements avaient franchi une ligne rouge. Lors du comité ministériel spécial, il a été demandé des mesures rapides, notamment l'expulsion de milliers de partisans du régime érythréen qui ont pris part à ces émeutes, a-t-il déclaré, disant qu'ils ne peuvent pas prétendre être des réfugiés s'ils soutiennent ce régime. Près de 18 000 demandeurs d'asile érythréens se trouvent en Israël. La plupart sont arrivés illégalement par la péninsule égyptienne du Sinaï.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les décideurs africains et d'ailleurs, dont le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, donnent ce lundi à Nairobi, au Kenya, le coup d'envoi d'un sommet historique sur le climat visant à faire du continent une puissance émergente en matière d'énergie renouvelable et à appeler à une aide financière internationale pour révéler son potentiel. Ce premier sommet africain pour le climat lance les 4 mois les plus chargés de l'année pour les négociations climatiques internationales. internationale qui culmineront avec une bataille sur la fin des énergies fossiles à la COP28 à Dubaï de fin novembre à début décembre. Le président turc Recep Tayyip Erdogan se rend ce lundi en Russie, c'est pour discuter avec son homologue Vladimir Poutine de la reprise de l'accord sur les exportations de céréales ukrainiennes via la mer Noire. Attend pour la récolte de l'automne. Les pourparlers auront lieu à Sotchi, dans le sud-ouest de la Russie. La première rencontre de M. Erdogan avec M. Poutine depuis octobre dernier intervient au moment où les forces russes tentent de contenir une contre-offensive de Kiev qui commence à se montrer prometteuse après 3 mois de combat sur le front sud. En attendant, le ministère russe de la Défense annonce que son aviation navale a détruit ce lundi 4 bateaux pneumatiques de fabrication américaine transportant des troupes de débarquement ukrainiennes dans la partie nord-occidentale de la mer Noire. La Minute Éco, Nathalie Barge.
Au Nigeria, le syndicat NLC a annoncé une grève de 2 jours cette semaine pour protester contre l'augmentation du coût de la vie. Le mois dernier, des travailleurs s'étaient déjà mis en grève à l'appel des 2 principaux syndicats. Les négociations n'ont pas abouti à des concessions suffisantes pour apaiser les organisations syndicales. L'inflation au Nigeria a atteint plus de 24% en glissement annuel en juillet. Lancement ce lundi à Nairobi du premier sommet africain pour le climat. Pendant 3 jours, une 20aine de dirigeants et autres responsables, dont le chef de l'ONU Antonio Guterres, seront accueillis dans la capitale kényane par le président William Ruto. Les leaders africains vont réitérer leur appel à la communauté internationale pour débloquer l'argent destiné au continent dans la lutte contre le changement climatique. Et 3 jours avant l'ouverture de ce sommet, William Ruto avait annoncé son intention de renforcer le déploiement des mototaxis électriques dans le pays. C'était à l'occasion du lancement du programme e-mobility à Mombasa en partenariat avec la start-up africaine Spiro. Elle opère déjà au Bénin et au Togo et veut déployer 3000 stations de chargement et de batteries au Kenya.
Merci Nathalie. À présent, les sports avec Élisée Ongpatine. Élisée, bonjour.
Et bonjour Idrissa et bonjour à tous.
Basketball à la une, on connaît les affiches des quarts de finale de la Coupe du Monde qui se déroulent en Indonésie, au Japon et aux Philippines.
Oui, 4 belles affiches qui commencent demain mardi. On aura Lituanie, Serbie, Italie, États-Unis et le lendemain, Allemagne, Lettonie et Canada, Slovénie. À noter que c'est le Soudan du Sud qui représentera l'Afrique pour les prochains Jeux Olympiques de 2024 à Paris après son succès 101-78 sur l'Angola. Nouvel espoir donc pour ce pays qui disputait son tout premier mondial.
Deux mondiales à un autre, celui de la pétanque qui démarre vendredi prochain à Cotonou.
La capitale béninoise abrita durant 10 jours la 50e édition de ces championnats du monde de pétanque. Et en visite d'inspection sur le boulodrome qui va abriter les rencontres, le ministre des Sports, Oswald Omeki, s'est dit satisfait de la réalisation de ce chef-d'œuvre de 26 aires de jeu et a rassuré que le Bénin est fin prêt à moins d'une semaine de l'événement.
Nous avons conçu un plan d'aménagement du site et vous le voyez vous-même aujourd'hui, ce que nous avons prévu de faire sur les plans n'est pas une maquette, ça a été réalisé. Et aujourd'hui, ce terrain est prêt pour accueillir toutes les compétitions. Ceci est le nouveau visage du Bénin. C'est désormais ainsi que nous voulons nous montrer et nous révéler au monde. Nous voulons concevoir de belles choses et nous voulons surtout les réaliser avec méthode. Vous le voyez vous-même, cette esplanade telle qu'elle a été aménagée, vous voyez cet espace, ces aires de jeu, cette tribune, tels qu'ils ont été aménagés, vous voyez toutes les autres commodités qui sont autour. Cela prouve que nous sommes désormais capables de bien faire les choses pour peu que nous y mettons du sérieux et vraiment dire à tous les Béninois que ça y est, nous sommes prêts.
Et précisons que cette Coupe du Monde de pétanque se déroulera du 8 au 17 septembre prochain au pied de l'Amazone à Cotonou.
Football à présent avec le tirage au sort au Caire de la première édition de la Super League africaine.
Tout à fait. Et les Tanzaniens de Simba affronteront les Égyptiens d'Al Ahly. Le TP Mazembe de Lubumbashi hérite de l'Espérance de Tunis. Enyimba du Nigeria sera aux prises avec le Wydad de Casablanca. Et le Petro de Luanda sera opposé au Sud-Africain de Mamelodi Sundowns. À noter que la compétition aura lieu du 20 octobre au 11 novembre prochain.
Merci Élisée.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sibulia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Gabon, le général Brice Oligui Nguema prête serment ce lundi comme président du Comité pour la transition et la restauration des institutions. Le CTRI, tombeur du régime des Bongo, promet de remettre le pays sur les plans institutionnels, politiques, économiques et sociaux. Une nouvelle ère débute donc au Gabon sur fond d'énormes attentes sociales, nous dit notre correspondant à Libreville, Ismaël Obiangze.
L'agenda des autorités militaires au pouvoir à Libreville est très chargé. Le Comité pour la transition et la restauration des institutions fixe son cap à travers une série de rencontres avec les corps intermédiaires de la société gabonaise. Et c'est un signal fort pour une grande partie de l'opinion publique.
Il a une bonne entame à partir du moment où il veut d'abord régler le problème des Gabonais les plus faibles. Donc nos papas, nos mamans qui ont travaillé et qui ont contribué pendant longtemps en essayant de dynamiser le fonds de retraite.
Plus discret que d'habitude, l'ex-parti au pouvoir, le Parti démocratique gabonais, ne donne pas de ses nouvelles depuis la chute du régime des Bongo. Écoutez ce qu'en pense l'un de ses anciens porte-parole, Michel-Philippe Zé.
Il ne faut pas jeter l'opprobre sur les militants du PDG. Il n'y a pas à avoir honte d'avoir été militant du PDG de bonne foi. On peut reprocher à certains PDG de ne pas avoir été vigilants, ceux qui ont été en responsabilité. À autre, qui n'ont pas su très tôt dire ce qu'il fallait.
Une fin de règne cinquantenaire du PDG qui s'ouvre sur une saison de soutien à la transition. Jean-Christophe Owoniguema, cadre politique de la province du Volentem.
Nous sommes au seuil d'un Gabon nouveau qui veut que tous les enfants, les filles et les fils de ce pays se retrouvent pour définir leur nouveau vivre ensemble.
Un Gabon nouveau, c'est aussi le changement de mentalité, pense Claude Mba, mécanicien auto.
Le pays ne peut pas changer que par le gouvernement ou bien par le régime militaire ou grec, ça commence aussi d'abord par nous. Notre mentalité, on doit être formaté dans la tête.
Pendant ce temps, la coalition de l'opposition Alternance 2023 qui soutient le professeur Albert Ondossa réclame toujours le recomptage des voix des élections controversées du 26 août dernier. Un combat perdu d'avance selon Rodrigue Maïssan Commun, acteur de la société civile proche de l'ancien régime.
On parle bien de transition, donc ça veut dire qu'il y a un délai. Après ce délai, nous repartirons aux élections. Albert Ondossa pourra revenir avec des institutions plus solides, qualifiées.
À quelques heures de son investiture, le président du comité pour la transition a pris d'importantes mesures, notamment une opération de saisie de fonds détournés par d'anciens barons proches d'Ali Bongo Ondimba. Le 31 août dernier, le général Brice Oligui Nguema et ses hommes ont pu récupérer plus de 7 milliards de francs CFA auprès des particuliers ayant profité de leur position au sein des arcanes du pouvoir. Mais le général Oligui sera très attendu sur la nature et la durée de cette transition. Ismaël Obianzé pour VOA Afrique, Libreville.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Au Cameroun, les enseignants posent des conditions pour la rentrée scolaire. Réunis au sein du mouvement « On a trop supporté OTS », ces enseignants ont déposé un préavis de grève qui prendra effet ce lundi, jour de la rentrée scolaire. Ils revendiquent de meilleures conditions de vie et de travail. De Yaoundé, notre correspondant Emmanuel Jules Tap.
Selon les enseignants du mouvement On a trop supporté, en abrégé OTS, l'appel à la grève est fondé sur deux principales revendications posées au gouvernement depuis février 2022. Dalat Njoya est membre du mouvement OTS.
Nous remettons ces deux points sur la table. La signature et l'application du statut spécial de l'enseignant révisé est déposée à la présidence de la République depuis le 18 mars 2022. Enfin, l'apurement total de toute la dette due aux enseignants. Le chef de l'État a donné un certain nombre d'instructions au gouvernement relatives aux problèmes soulevés par les enseignants. Malheureusement, ces instructions n'ont pas été réalisées jusqu'à date.
La dette due aux enseignants a été estimée en 2022 à 181 milliards de francs CFA. Près de 25 000 enseignants sont concernés par l'apurement de cette dette. Dalat Njoya, membre du mouvement, on a trop supporté.
L'enseignant qui est sorti de l'école normale et qui attend d'être pris en charge est concerné. Celui qui est pris en charge que selon le système de deux tiers est concerné. Celui qui attend le rappel de ses deux tiers est concerné. Celui qui attend le rappel de son non-logement est concerné. L'enseignant qui attend le rappel de ses avancements est lui également concerné.
Au cours des négociations entamées en mars 2022 avec les enseignants, le gouvernement avait annoncé le délai d'août 2023 pour l'apurement total de cette dette. Le gouvernement a aussi pris certains engagements sur la gestion du plan de carrière des enseignants. Joseph Lé, ministre de la fonction publique.
J'ai pu affirmer qu'à ce jour, les directives présidentielles adressées au MINFOPRA, j'ai dit qu'il y en avait 5 sur 8, ces directives ont toutes été mises en œuvre ou sont en cours d'implémentation.
Au cours d'une conférence de presse à Yaoundé, les principaux leaders des syndicats d'enseignants ont quant à eux revendiqué des réformes structurelles à l'éducation pour cette nouvelle année scolaire. Roger Kafo, secrétaire général du syndicat national des enseignants du Cameroun.
Nous pensons qu'il faut, pour notre système éducatif, des réformes en profondeur et il n'y a qu'une façon d'y arriver. C'est d'organiser un forum national de l'éducation.
La tenue de ce forum a été annoncée depuis 4 ans par le gouvernement. Il est toujours attendu. Yaoundé, Emmanuel Jumtap, VOA Afrique.
Salut à tous, c'est Yakuba Ouedraogo. Vous aimez le sport? Vous voulez comprendre davantage chaque discipline? Vous voulez en discuter? Retrouvez-moi chaque lundi en direct à partir de 19h05 temps universel dans Sporama sur VOA Afrique. Pour participer à l'émission, c'est très simple. Laissez-nous vos commentaires et numéro de téléphone sur notre page Facebook. Nos spécialistes du sport sur le continent sont là pour vous apporter leurs éclairages. À très vite sur le terrain de VOA Afrique.
Au Tchad, le taux de malnutrition chez les enfants reste très élevé dans la province du Kanem, située à plus de 300 km au nord-ouest de N'Djamena. Malgré les différentes campagnes de sensibilisation menées par le gouvernement et ses partenaires humanitaires, la population reste encore trop attachée à des pratiques traditionnelles, une bonne partie ayant toujours recours aux soins traditionnels en cas de maladie. Une telle situation aurait contribué à la persistance de la malnutrition dans la dite localité. Un reportage de notre correspondant à N'Djamena, André Kotmadjingar.
Selon les spécialistes, les causes de la malnutrition dans la zone sont multisectorielles. Il s'agit fondamentalement de l'environnement qui est hostile à la production agricole et donc tous les produits sont importés, la prise en charge des pathologies basiques causées par le manque d'hygiène et d'eau potable, ainsi que le contexte économique et sécuritaire. Les installations du château d'eau qui alimente le chef-lieu de la province du Kanem datent de 1911. Maïna Abakar Sidi, qui est le point focal nutrition à la délégation sanitaire du Kanem.
En plus, les pratiques néfastes qui gagne le terrain dans notre région, telle que l'ablation de la luette, escarification des fausses dents. Si l'enfant fait la diarrhée, il faut brûler l'anus pour arrêter la diarrhée. Escarification au niveau de la poitrine pour traiter l'infection respiratoire au lieu d'amener au centre de santé. Et c'est à cause de ça que les enfants tombent malnutris toujours.
Alors qu'en dehors de l'hôpital provincial, qui a une grande capacité d'accueil, 8 hôpitaux de district sur 10 dont dispose la province de Mao sont fonctionnels. Maïna Abakar Sidik, point focal nutrition à la délégation sanitaire du Kanem, déplore la mort des enfants malnutris de janvier juillet à août dans les unités nutritionnelles thérapeutiques et ambulatoires.
Dans la prise en charge, nous avions cette année 12 enfants décédés. En plus, nous avions dans l'UNT 22 décès. Nous, on ne veut pas entendre le décès au niveau des centres de santé. Dès que l'enfant présente avec une complication, que ce soit un manque d'appétit, anorexie, un syndrome génétique, on réfère directement à l'UNT pour que l'enfant retrouve son appétit. Mais certaines mères, elles refusent de venir.
Mariam Chou, une jeune dame, accepte le conseil du personnel soignant. Elle amène son enfant au service d'unité nutritionnelle thérapeutique de l'hôpital provincial de Maou. Elle confirme au micro de VOA Afrique que son enfant est pris en charge de façon efficiente et régulière.
C'est depuis 2 mois que mon enfant a fait la diarrhée et on m'a dit que c'est la dentition. Et quand je l'ai amené ici, que le médecin m'a dit que c'est la malnutrition. On a fait déjà 4 jours ici. Aujourd'hui, Dieu merci, mon enfant va nettement mieux et je remercie tout le monde. Quand ils vont nous libérer de l'hôpital, je vais appliquer la propriété et mon enfant va manger des choses équilibrées. Je vais nettoyer toutes les saletés dans ma maison pour que ma maison soit propre à tout moment.
Pour Dr Béni Yurongar, la malnutrition affecte négativement le développement social, mental et psychologique de l'enfant.
Il est démontré donc que les enfants qui ont souffert de la malnutrition, comparés aux autres enfants de même tranche d'âge, ont donc un souci en ce qui concerne leur développement intellectuel. Et cela est un poids même pour la santé publique, est un poids même pour la nation, parce que ces enfants ont une faible probabilité de pouvoir contribuer efficacement, vu que leur capacité intellectuelle est vraiment affaiblie par la malnutrition.
Face à cette situation, l'appui multiforme de l'UNICEF ne fait pas défaut. Des intrants nutritionnels et des matériels ont été mis à la disposition des différentes unités nutritionnelles des centres de santé de la dite province pour la prise en charge des enfants malnutris. Aussi, contribue-t-il financièrement à la formation et à la prise en charge des agents pour les rendre efficaces sur le terrain. André Kordomadingar, de retour de Mao N'Djamena pour VOA Afrique.
VOA Afrique, N'Djamena, c'est 93.1 FM au Tchad.
Au Burkina Faso, le gouvernement a rendu hommage aux victimes du terrorisme. Une journée a été organisée vendredi en marge de la Journée internationale du souvenir en leur honneur. Si des victimes, des familles de victimes du terrorisme se réjouissent de cet hommage, elles demandent néanmoins l'application de ce qu'elles appellent la loi portant sur les pupilles de la nation. De Ouagadougou, notre correspondant Lamine Traoré.
La cérémonie a lieu au rond-point des martyrs dans le quartier Ouagadougou de la capitale burkinabé. D'un côté, des familles des victimes du terrorisme et de l'autre, des autorités. Les parents de victimes des attaques terroristes disent être honorés par ces hommages, mais demandent au gouvernement l'application du décret sur les pupilles de la nation. Anastasie Lankwande, membre d'une famille de victimes.
C'est un sentiment de joie parce que le gouvernement nous a permis de nous exprimer à nouveau à l'endroit de nos populations et aux autorités du gouvernement. Du moment où le président lui-même nous a fait honneur de venir vers nous dans quelques bâmes des familles qu'il est allé rendre visite, ça nous a vraiment réconforté et nous voulons le croiser pour exprimer notre joie. Nous, le doléant ce jour était une concrétisation du décret d'application de la pupille de la nation. Ça tarde à venir.
Aïda Ouedraogo est une veuve d'un soldat tué.
C'est un grand honneur pour nous de venir rendre un hommage à nos défunts maris qui sont tombés pour la nation. Les mots nous manquent beaucoup de souvent nous exprimer concernant certaines choses. Concernant les décrets que le gouvernement a pris, nous va droit au cœur. Car ça y va à notre faveur aussi concernant du côté des enfants.
Les familles des victimes ont demandé à rencontrer le capitaine Ibrahim Traoré pour faire bouger les choses. Rodrigue Bayala, le ministre de la Justice, rassure.
Au plus haut sommet de l'État, la préoccupation de prendre en charge les personnes victimes du terrorisme est à l'ordre du jour. Et c'est pour cela que nous avions bien compris que la demande d'avoir une audience avec son Excellence le chef de l'État lui sera directement transmise. Et en fonction effectivement de son agenda, il recevra certainement les victimes, les familles effectivement les ayants droit qui ont manifesté cette demande.
Ce n'est pas la première fois que le Burkina rend hommage aux victimes du terrorisme. C'est la troisième fois que la journée est commémorée. Depuis fin 2015, le pays est dans une spirale de violence terroriste qui a fait des milliers de morts et plus d'un million de déplacés. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique, au micro Idrissa Seloudia, en compagnie de Lionel Gahima et de Kelvin Fowler. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.